pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous vous diffusons le second enregistrement que nous avons pu réaliser lors du week-end du 27 et 28 avril dernier, organisé par le syndicat des gardiens et gardiennes de troupeaux, susnommé la SGT, qui avait lieu à Bad Serre. Vous entendrez donc l'enregistrement d'une des discussions qu'ils et elles avaient organisées autour de la question des métiers passions. Bonne écoute.
Bon bah déjà merci d'être venu aujourd'hui, ça nous fait super plaisir d'organiser cet événement avec les différents syndicats de gardiennes et gardiens de troupeaux. Et on est aussi très heureux de recevoir Elisa qui a écrit « Te plains pas, c'est pas l'usine », un bouquin qui parle du rapport au travail dans le milieu associatif et des rapports d'exploitation dans le milieu associatif. Et donc nous, ça nous a intéressé d'aborder ce sujet-là parce que déjà on voulait parler du travail dans une perspective plus large. Parce que, en fait, au-delà de la question spécifique du milieu associatif, les questions soulevées dans l'ouvrage parlent beaucoup plus largement du rapport au travail, qui utilise comme levier d'engagement la passion, l'investissement affectif, le ressort du sens au travail, etc. Et on pensait que ce serait intéressant de peut-être commencer par questionner le titre de l'ouvrage. Pourquoi cette référence à l'usine? Qu'est-ce que ça évoque, l'usine, aujourd'hui, dans le milieu du travail?
Le livre, il s'appelle « Te plains pas, c'est pas l'usine » parce que c'est une remarque... ça vient vraiment directement d'une remarque qui m'a été faite, en l'occurrence à moi, dans le cadre d'une maison d'édition militante dans laquelle je travaillais, où du coup, il y avait eu un gros mouvement de conflit entre la direction et les salariés. Et le conseil d'administration avait dit « Mais ça va, vous plaignez pas, c'est pas l'usine ». Comme si on avait du coup de la chance de travailler à un projet militant associatif et que du coup, on avait... tout compte fait pas à se plaindre, quoi. Donc le titre, c'est une citation directe d'un directeur d'association. Le livre, il est sorti en février 2020. On est deux à avoir un peu pris plus de place dans l'écriture, mais c'est un ouvrage plutôt collectif basé sur des entretiens. Donc on est deux à avoir écrit. Ma collègue ne pouvait pas être là aujourd'hui. On habite toutes les deux en ville, à Marseille. Et elle était plutôt active dans des mouvements de lutte auprès des personnes exilées. Et elle a fait le constat que des mouvements de lutte devenaient des mouvements associatifs et perdaient un peu en conflictualité au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de personnes qui s'y salariaient et qui, du coup, étaient dans des liens de dépendance, y compris à des questions de salaire et de liens à, je sais pas, aux institutions, à la préfecture, aux financeurs. Donc elle partait plutôt de ce point de vue-là, avec l'hypothèse de base que le secteur associatif, il a tendance à venir baisser la conflictualité dans des situations de lutte. Et moi, je suis salariée associative depuis que je travaille. J'ai une trajectoire très, très classique au sein des associations de filles de profs, services civiques, puis contrat aidé, puis CDIsation. Et du coup, moi, j'écris plus depuis la place de salariée associative. Et par ailleurs, je suis syndiquée à Asso Solidaire, qui est un syndicat qui est plutôt jeune. C'est le premier syndicat qui syndique vraiment les salariés des associations. Parce qu'il n'y a pas de convention collective association et que du coup, c'est la première fois que le choix est fait de syndiquer tous les salariés du secteur associatif. Et d'ailleurs, pas que les salariés, parce qu'il y a salariés aussi les services civiques. On a écrit aussi pas mal pendant des mouvements sociaux où il y avait des revendications au niveau du travail associatif. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, contre la suppression des contrats aidés. Et du coup, on s'est retrouvés à Marseille, on avait fait une banderole, on veut nos contrats de merde, payer des miettes. On s'est trouvés à lutter pour conserver des contrats aidés qui sont des formes de précarité payées au SMIC, 26 heures, avec souvent beaucoup plus que 26 heures faites réellement. Et du coup, on se retrouvait dans une espèce de position de devoir défendre ton outil de travail avec ton patron, alors que pour autant, ton outil de travail, c'est dans ce cadre-là que tu as des conditions de travail de merde. Donc, cette espèce de paradoxe-là qui nous a donné envie d'essayer de comprendre qu'est-ce qui crée cette adhésion, qu'est-ce qui fait que tu peux concrètement aller manifester contre une suppression de ton contrat, qui est pourtant un contrat qui est particulièrement pas protecteur, qui est systématiquement très précaire, et qu'est-ce qui fait que les gens mettent autant de cœur à lutter auprès des patrons pour maintenir des conditions qui sont parfois si mauvaises. Voilà. Bon, on avait quand même une petite hypothèse sur la réponse, hein. C'était pas une enquête trop difficile à mener. La singularité du secteur associatif, peut-être ce qui fait différence avec d'autres secteurs. Donc les assos, ça vient de la loi de 1901. Et le conseil d'administration qui sont censés être les dirigeants des associations, c'est des personnes bénévoles qui ne peuvent pas être rémunérées pour ce qu'elles font dans l'association. Souvent, on se dit la loi de 1901, c'est du côté du bien, quoi. C'est bien les associations, c'est politique, c'est du militantisme, c'est de l'action sociale, c'est de l'aide. En fait, 1901, cette loi-là, elle vient encadrer des mouvements, notamment des mouvements ouvriers, en disant dès qu'il y a un regroupement, dans un quartier, dans une boîte, dès qu'il y a un regroupement, il faut que l'État puisse savoir qui en est membre, il faut qu'il puisse avoir une déclaration en préfecture. Et du coup, en fait, c'était assez intéressant de constater que c'est quelque chose qui vient encadrer des modes d'action, notamment politiques ou syndicaux ou parasyndicaux. C'est pas des gens qui ont décidé « Ah tiens, si on crée des associations », c'est plutôt l'État qui vient dire « Bon, il faut qu'on crée cette loi de 1901 parce qu'elle vient encadrer ». Voilà, ça vient aussi un peu briser une espèce de mythe que les associations sont... souvent, on dit quoi, des militants associatifs. Et en fait, l'association, ce n'est pas une continuité du militantisme, c'en est plutôt un encadrement. Ce qui n'est pas du tout à dire, d'ailleurs, que c'est ni bien ni mal, quoi. C'est un simple constat de comment ça se passe. Et je passe très, très vite, mais la crise... Elle fait que l'État, il se dit, bon après, l'État, c'est pas une structure, c'est pas une instance qui se dit, ah tiens, je me dis que, mais on va schématiser ça comme ça. L'État, il se dit, ah c'est quand même vachement bien de déléguer des services publics à des associations parce que ça coûte infiniment moins cher. Du coup, ça fait qu'on n'a pas besoin de fonctionnariser les personnes. On peut donner une mission à une asso un jour et puis en fait, après, lui changer complètement sa mission. Et donc, les associations qui, au départ, recevaient ce qu'on appelle des subventions de fonctionnement de l'État. Donc, en gros, les assos, elles déposaient un projet où elles disaient ce qu'elles faisaient et on leur donnait des sous en face. Il faut, pour pouvoir se financer, c'est le début de ce qu'on appelle la logique de l'appel à projet. Du coup, l'État, il dit, bon, il me faut une asso pour aller bosser sur... par exemple, en ce moment-là, ça se fait beaucoup sur les trucs de déradicalisation laïcité. Hop, on ouvre un appel à projet ou, je sais pas, ça peut être éducation... lutte contre les stéréotypes, et du coup, les assos, pour survivre, répondent de plus en plus à des logiques d'appel à projet. Ça fait de la concurrence interassociative, ça fait une baisse des coûts. Pour gagner l'appel à projet, tu es amené de plus en plus à baisser le coût du travail et la qualité du... Je parle en termes un peu capitalistiques, hein, mais enfin, tu baisses la qualité du service rendu. Et du coup, nous, on s'est intéressé à qu'est-ce que c'est les conséquences concrètes de cette logique. Du coup, on relevait un certain nombre de situations, par ailleurs parce que l'associatif nous proposait des boulots intéressants et qu'on avait envie de faire, qui correspondaient à nos aspirations, mais à être dans des situations de burn-out ou de pré-burn-out, conduisant à des démissions. Enfin voilà, on voyait des situations de surcharge de travail. On constatait aussi une impossibilité de dire que ça ne va pas, parce que globalement, dans ce secteur associatif, notamment beaucoup dans les petites associations à dimension très militante, il y a un truc de « tu ne vas pas aller critiquer ce qui ne va pas dans ton association parce que déjà, le patron, potentiellement, c'est lui qui l'a créé, il y a mis tout son cœur et il a une espèce de bonne volonté et puis tu ne vas quand même pas cracher dans la soupe. Et puis, après tout, puisqu'on te permet de faire quelque chose d'intéressant, du coup, le simple fait de militer pour des conditions de travail, ça devient pratiquement, ou ça peut devenir pratiquement une trahison. » Donc, on est parti de ces constats-là. T'as déjà bien de la chance que l'association te permette d'accéder à un certain statut, au statut de salarié associatif. Après tout, tu fais plus que tu faisais bénévolement, tu le fais contre un salaire. Donc, voilà, une impossibilité d'organisation et une espèce de mythe, ce qu'on a appelé dans le bouquin le mythe de la famille associative. Tu vas pas... Alors, c'est surtout vrai dans les petites associations avec une dimension d'horizontalité qui est parfois une horizontalité très affichée. Et toujours un truc intéressant sur la question du statut du patron. C'est compliqué la question du patron dans les associations parce que le patron, il met pas de capital de base et il est salarié lui-même de l'association. Il y a éventuellement un salaire qui peut être beaucoup plus important, mais c'est aussi un salarié. Et donc, on constatait que c'était difficile de désigner la question des chefs à l'intérieur des associations. Parce que tes chefs, ça peut être ton directeur ou ta directrice, mais c'est aussi, dans une certaine mesure, le financeur. Et c'est aussi, dans une autre mesure, le conseil d'administration. Et donc, le fait que ce soit aussi compliqué de déterminer d'où viennent les ordres, ça rend aussi toute organisation un peu complexe, quoi. Voilà. Mes chiffres, ils ne sont plus très à jour, ça fait longtemps, mais il y a quand même, je crois maintenant, pratiquement 2 millions de salariés des associations. Les assos, ça recouvre un grand, grand, grand nombre de réalités. Parce que, par exemple, tu as le service à la personne. Souvent, c'est des associations, en fait, mais les gens ne savent même pas qu'ils sont salariés d'une association. C'est des secteurs d'hyper précarité où des personnes, généralement des nanas, font 4 heures le matin, 2 heures le soir. Le groupe SOS, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin, c'est des associations maintenant immenses à vocation sociale ou médico-sociale, donc qui sont très, très, très employeuses. Ça se dit beaucoup, ça y est, maintenant, les assos sont soumises... À une logique de marché. Bon, nous, on pense que de toute façon, elles n'ont jamais vraiment été en dehors d'une logique de marché. Mais le fait qu'elles y rentrent de plus en plus et qu'elles soient structurellement obligées de répondre à cette logique de marché-là, on s'est intéressé à ce que ça produisait comme conséquence. D'abord sur les usagers des associations et ensuite sur le travail. La première conséquence, la conséquence directe de cette logique d'appel à projet, elle se fait sur les usagers. Déjà, tu baisses le prix de journée sur un accueil de jour de mineurs. Forcément, évidemment, ça baisse la qualité de ce que les gens qui sont accueillis ils ont en face d'eux, qui fait de la réduction des risques pour des personnes usagères de drogue. Et puis, ils n'ont plus de sous. Et du coup, ils se mettent à répondre à des appels à projets sur l'accueil des personnes exilées. Sauf que personne ne sait ce que c'est. Du coup, ça met les usagers en situation d'avoir un service merdique et puis les travailleurs de devoir faire un boulot qu'en fait, ils n'ont pas du tout été formés à faire et qu'ils ne savent pas du tout faire. Ce qui fait que du coup, t'es systématiquement mis dans une situation de pas savoir bien faire les trucs, devoir te former à les faire, mais devoir te former sur le tas, créer ton propre poste et créer l'idée que tu vas le... Comment dire ? Que tu dois garantir de répondre à l'appel à projet pour avoir tes financements, sinon concrètement, ton boulot, il est, ton contrat n'est plus payé. Et du coup, de devoir notamment surtravailler pour... produire ta propre nécessité, quoi. Ce qui est une conséquence directe. Donc, du coup, tu dois faire de plus en plus en de moins en moins de temps et être une espèce de mouton à 5 pattes là, de l'associatif pour que ton asso puisse se maintenir et être en capacité de répondre à l'appel à projet. Une fois qu'on décrit ça, on peut se dire, ça veut dire que tout le monde est dans le même bateau. On doit défendre les associations. Enfin, en gros, nous, ce qu'on nous a beaucoup dit, et notamment dans des mouvements... Moi, je suis... Enfin, par ailleurs, dans mon histoire, j'ai été plusieurs fois en lutte syndicale à l'intérieur de boîtes associatives. Et ça, on a plutôt perdu. Globalement, dès qu'on revendiquait, on nous disait « Ouais, c'est pas de notre faute, c'est les financeurs. C'est les financeurs qui donnent de moins en moins d'argent. Et donc, si vous n'êtes pas contents, allez manifester devant le conseil départemental, devant la mairie. Parce que finalement, il n'y a pas de patron. Nous, on est tous maltraités par le système des appels à projets. Et avec une espèce d'illusion qu'on lutte tous contre les appels à projets. Et donc, il n'y a pas en fait, de patron d'association. Il y a la famille associative qui se défend contre les méchants appels à projets. Et au sein de cette famille associative, il n'y a pas de différence. Et c'est pas vrai. du coup, on en déduit donc une forme de famille associative, et c'est pas le cas. Et ce mythe, en fait, ce mythe de la famille associative où tout le monde est pareil, c'est un peu là-dessus qu'on voyait des liens. C'était, tu bosses dans des structures qui sont très attaquées qui peuvent être perçues comme des espèces de mini Eldorado qui se défendent contre un monde ultra libéral. Et du coup, ça vient justifier le fait d'y donner énormément de temps, d'y donner énormément d'énergie, parce que en fait, c'est une forme quasi de défense idéologique de l'idée d'un travail qui fait sens.
Pour vraiment faire un truc en miroir, nous, on nous propose souvent la défense de la ruralité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on investisse une espèce de... il faudrait qu'on se définisse comme la famille de la ruralité, et défendre nos paysans, parce que la petite paysannerie est attaquée par rapport à l'agro-industrie, et du coup, il faudrait que, plutôt que de lutter entre des gens qui se font exploiter souvent par des éleveurs, se mettre avec eux et gérer avec eux en fait la défense de la ruralité. Enfin, voilà. C'est juste pour nommer cet exemple-là. Mais voilà.
Ce que ça donne dans les associations, cette histoire d'adhésion à l'idée de la famille associative et qu'il faut défendre le secteur associatif, c'est que ça permet de rendre acceptable pléthore d'ultra-précarisation. L'une des spécificités du secteur associatif, c'est d'avoir le droit, statutairement, juridiquement, de recourir à un grand nombre de contrats hyper précaires, hyper merdiques. On les cite dans le bouquin, mais c'est et puis ça change tout le temps parce que chaque gouvernement successif les supprime puis les recrée parce que c'est des variables d'ajustement du chômage et que ça permet de jouer sur les chiffres du chômage. Mais les associations, elles ont recours à des contrats aidés type... avant, c'était les CUI-CAE, maintenant, c'est les parcours emploi compétences. Donc ça permet d'avoir l'État qui prend en charge 60% du coût du salarié, mais sur des trucs de SMIC hyper merdiques avec des contrats de 6 mois. Les associations, elles ont aussi la possibilité de recourir, mais je pense que ça doit être, enfin, doit y avoir effectivement, on en parlait, des trucs de woofing ou de volontariat. Enfin, là, en tout cas, pour les associations, ce serait genre le service civique qui n'est pas limité en nombre d'heures. Où le service civique, c'est considéré comme pas du travail, donc t'as pas de limitation horaire, tu peux faire 50 heures semaine en étant en service civique, et c'est 450 euros par mois. Un des exemples là, de ce qui est en train de se passer, c'est, sur des questions de précarité et de recours à la précarité dans le secteur, c'est le RSA conditionné. Désormais, il va falloir faire je sais plus combien d'heures. C'est 15 heures de travail pour pouvoir... il y a des gens... 15 heures de travail, et notamment... Les associations ont bien évidemment répondu présentes à ces nouveaux marchés qui s'ouvrent. Le mythe de « on se bat pour nos valeurs, on se bat pour l'existence des associations, on se bat pour un projet associatif », il vient aussi casser à l'intérieur même des associations, enfin en tout cas il vient impacter toute velléité de revendication. Parce que déjà, et ça nous a beaucoup été dit, très souvent dans les tentatives de lutte notamment syndicale à l'intérieur des associations, la personne qui va dire, bon, bah voilà, il y a des heures, par exemple, les heures complémentaires doivent être récupérées, majorées, bah, peut potentiellement passer pour quelqu'un qui ne donne pas assez du sien, qui ne s'investit pas assez dans le projet associatif et du coup devient un mauvais travailleur. Et donc, toute velléité d'organisation à l'intérieur de la boîte, c'est quelqu'un qui potentiellement ne s'investit pas assez, voire, et ça nous a beaucoup été dit dans les entretiens, met les usagers dans la merde. Il y a vraiment un truc de « mais tu vas quand même pas compter tes heures » alors qu'il y a des familles qui dépendent de toi, alors qu'il y a déjà une idée du modèle associatif où tu devrais idéologiquement être d'accord pour faire des heures en plus. Et en plus de ça, concrètement, si tu t'organises et que tu demandes la récupération de tes heures, ça va foutre des familles dans la merde. Ce que ça fait aussi, ce que ça produit aussi, ce truc du mythe de la famille associative, c'est l'invisibilisation totale des directions des associations. Tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est là pour la même cause. Et donc, et en plus, il y a ce truc un peu de... Bah non, mais c'est, vous avez vu comme on est pauvre, on ne fait pas vraiment du profit. Et du coup, ça invisibilise toute figure de chef. Voilà, toute figure de chef, parce que finalement, il est là pour les mêmes raisons. Du coup, c'est quoi un patron associatif qui dit « Ah, mais c'est moi qui ai monté le truc » et qui, en fait, se fait des notes de frais absolument phénoménales. La question des patrons, des associations qui seraient dans la merde, elle est à relativiser. Je veux dire, ils ont la main sur les notes de frais, les voitures de fonction, le capital social que ça rapporte d'être patron d'association et du coup de pouvoir avoir tout un tas de trucs qui te sont ouverts, des portes du politique. Il y a des écarts de salaire qui sont moins importants que dans le reste du monde du travail, mais pour autant, ça ne vient absolument pas annuler le fait qu'il y a des rapports de direction à l'intérieur des associations. Voilà. Dans le bouquin, il y a une partie qu'on a intitulée « Le sous-prolétariat associatif ». Il y a vraiment cette idée de « Ah, mais dans les associations, tout le monde donne de son temps ». Et du coup, ça vient complètement invisibiliser les différents statuts à l'intérieur même de la famille, là, des travailleurs associatifs. Déjà, sur cette espèce de truc de se dire « Ah, on est tous là par choix », ce qui est absolument pas vrai. Par exemple, dans le service à la personne, il n'y a pas grand monde qui choisit, en fonction du projet associatif, d'aller faire 2 heures de ménage le matin dans une garderie. C'est des boulots qui sont trouvables et qui demandent peu de qualifications et qui sont extrêmement sous-payés. Du coup, demander à des gens de faire comme si tout le monde était investi, ça vient aussi nier le fait que c'est hyper segmenté à l'intérieur même des associations, quoi. Ce qu'on a appelé l'idéologie du dévouement, de donner de soi, de travailler à des valeurs, ça vient rendre extrêmement difficile la question des luttes à l'intérieur du secteur associatif. Déjà parce que dans les assos, il y a pas de, enfin il y a un degré de syndicalisation qui est extrêmement faible. Il y a pas de convention collective dans les associations, donc enfin c'est un peu bordélique la situation syndicale. La question de la précarité, du fait que les contrats soient souvent très très courts et qu'il y a un turnover très très important, notamment aussi par la grande fatigue, par l'exploitation très forte, le nombre d'heures exponentielles, du coup ça fait que les gens restent pas. Enfin, nous par exemple, moi je fais beaucoup de permes de permes d'accueil syndical à Marseille. 80% des personnes qu'on reçoit, et on en reçoit de plus en plus, elles viennent en perme uniquement pour obtenir des ruptures conventionnelles. Enfin, c'est un milieu sur lequel en gros tu restes, t'en peux plus, tu te barres. La logique un peu traditionnelle, c'est ça. Il y a pas, du coup, t'en peux plus et du coup, tu t'organises. Par ailleurs, il y a cette question qui est hyper intéressante et je pense que ça peut faire l'objet de discussions aussi de les luttes à l'intérieur du secteur associatif. C'est comment de lutter potentiellement avec son patron. Là, ça a été rigolo. Il y a sur des exemples assez concrets, par exemple, il y a eu quand tu as des baisses de subventions, ça a été le cas là sur des centres sociaux, tu as des patrons qui demandent aux salariés, par note de service interne, de se rendre à la manif devant la préfecture pour faire nombre, pour demander des hausses de subventions. Et ça crée quand même un truc un peu taré. Où, du coup, qu'est-ce que c'est une lutte aux côtés de ton patron pour obtenir un financement? Qu'est-ce que tu fais au sein de ça? Est-ce que du coup tu dis non, je suis pour la perte de cette subvention, mais du coup ça met en danger potentiellement ta position? Et en même temps, le fait de gagner cette subvention, c'est pas une victoire des travailleurs, c'est une victoire de potentiellement l'outil de travail. La difficulté de lutter dans ce secteur, c'est aussi que les employeurs se considèrent très peu comme des employeurs. Il y a plein d'exemples de petites structures de mais c'est familial, et puis mais en plus des trucs un peu tarés, notamment beaucoup dans les milieux militants, des journaux militants qui disent mais à la base on est un outil militant, on est une bande de copains, et donc du coup on n'est pas réellement des employeurs, mais tu luttes contre qui en fait? Et ce que je disais au démarrage, la question de comment c'est compliqué de désigner face à quoi t'es et face à quoi tu t'organises. Après il y a un autre ressort qui rend difficile la mise en lutte dans le secteur associatif, c'est donc l'utilisation un peu psychologisante là, de ce truc de dévouement, t'es pas assez dévoué, tout ça, et son corollaire qui est un peu « oui, mais personne ne t'a demandé de t'investir autant. Si tu t'investis autant, c'est parce que c'est toi qu'on a fait le choix, ou c'est parce que potentiellement tu fais pas assez bien ton travail, et puis après tout, personne ne t'a demandé. » Vu que le pouvoir est très peu assumé, qu'on ne donne pas d'ordre, et que par ailleurs, tu t'investis dans ce que tu fais parce que j'y trouve du sens, parce que tout ça n'est pas une sombre machine destinée à faire souffrir les gens. Je veux dire, moi, je suis travailleuse associative, j'aime énormément mon métier, et de fait, je m'y investis énormément, et c'est pas que du côté du mal, quoi. Enfin, je m'y investis beaucoup, et si je râle, on me dit « Oui, mais personne ne t'a demandé de t'investir autant. » Et cette question-là, elle est intéressante à regarder, parce que, oui, effectivement, personne ne t'a demandé de t'investir autant, mais de fait, toute la logique que j'ai décrite auparavant de la multiplication des appels à projets, de la multiplication des dossiers de subvention, des choses à remplir, de la difficulté croissante du travail, fait que tu es obligé de t'investir. Et par ailleurs, au-delà de ça, sur la dimension un peu plus affective du travail, bah, tu t'investis aussi parce que, oui, de fait, il ne s'agit pas de dire ce qu'on voudrait, c'est ne pas aimer ce qu'on fait. Et c'est, enfin, il y a une question contradictoire là-dedans, mais qui est, enfin, voilà, qui a assumé. On a fait une hypothèse. C'est marrant parce qu'on a, en plus de ça, dans la première version, on a fait une hypothèse heureuse et optimiste, qui était l'hypothèse de construire des espaces de lutte entre travailleurs, travailleuses et bénéficiaires des associations. Donc ça, c'était une idée qu'on s'était faite où on s'était dit, mais tout va marcher, il va y avoir une alliance. Ou par exemple, il y a des bénéficiaires qui vont pouvoir dire, nous, on veut qu'on soutient des travailleurs qui ferment un centre d'accueil parce qu'on constate aussi la détérioration du service qui nous est rendu. Et du coup, on va faire des manifs incroyables qui vont mélanger. Ben, ça marche pas. Et notamment, par exemple, là, je crois que c'était pendant le dernier mouvement retraite. Moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, bon, des fois, on écrit des trucs et puis après, il se passe. Et en fait, ça s'est pas si bien passé que ça. Il y a des centres d'accueil de personnes en situation de polyhandicap qui ont demandé à ramener des bénéficiaires en situation de polyhandicap dans des manifs, ce qui est quand même un truc vraiment bizarre, en fait. Enfin, c'est fait un... Du coup, on s'est dit, ah, mais en fait, cette hypothèse de lutte, si elle vient exclusivement des directions associatives et que ça a vocation à utiliser les bénéficiaires pour montrer qu'il y a besoin de ces services, en fait, c'est une connerie. Voilà. Alors, quand même, des trucs qui nous sont arrivés... Il a hyper bien marché, ce bouquin, parce qu'il n'est pas cher et que la couverture est belle. Et un peu dans la réception, il y a eu des questions. Alors, notamment, dès qu'on ne le présente pas en ville, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais ce que vous dites, c'est vrai pour des grosses associations très hiérarchisées, en ville, comme je sais pas, les assos qui tiennent des centres sociaux ou les grosses fédés d'éducation populaire. C'est pas vrai pour nous. Nos petites associations, notamment à la campagne, sont, elles, des vrais outils d'auto-organisation. Ben, nous, on pense que c'est pas complètement vrai. Voilà. Bien sûr, c'est pas les mêmes formes. Évidemment que ça prend pas les mêmes formes que dans des grosses assos, évidemment extrêmement hiérarchisées, mais que c'est pas nécessairement mieux. Et c'est pas nécessairement la garantie d'un bon fonctionnement quand il y a une espèce de dimension petit assaut, un peu alternative. Et que c'est pas parce qu'il y a une horizontalité affichée, une structure amicale avec très peu d'hierarchie, que ça veut pas dire qu'il y a des rapports qui sont... en fait, qui sont conditionnés par le fait d'être des rapports de subordination. Après, c'est le travail. Ça ne veut pas nécessairement dire, enfin, c'est pas du côté du mal, mais en tout cas, c'est pas parce que on bosse avec ses potes. À partir du moment où il y a rapport de subordination, il y a employeur, il y a signature d'un contrat de travail, et du coup, ça rentre juridiquement dans le cadre du salariat. Et on nous a beaucoup dit, c'est ce que vous dites concerne que les grosses structures. On pense que c'est plutôt pas tout à fait vrai. Ça manque quand même. Notre bouquin, il manque quand même d'une sorte de typologie un peu, mais parce qu'on n'est pas chercheuse, il aurait fallu faire un bouquin, un boulot. Ça nous a été dit aussi, vous n'avez pas assez bossé sur une espèce de classification des assos et des types d'associations. Je pense qu'il aurait effectivement fallu faire ça, mais on ne gagne pas d'argent pour ce livre. Du coup, on n'a pas le temps parce qu'on est travailleuse associative. Voilà. Sur la réception... oui, un truc qui était rigolo quand même, un peu sur la réception du livre. On est allé dans les Cévennes. Il y a un type qui était inspecteur du travail et qui nous a interpellés sur le fait que notre livre était super, mais qu'il parlait pas du tout des associations. Qu'en fait, il parlait de l'intégralité du travail aujourd'hui, que ce qu'on décrivait, l'idéologie du dévouement, les nouvelles politiques managériales et tout, en fait, ça s'appliquait pas du tout uniquement aux associations. Et que c'était... le monde du travail globalement qui maintenant se fonctionnait comme ça. Nous, on pense quand même que cette spécificité associative, elle existe, notamment parce qu'il y a le recours possible aux contrats aidés, aux services civiques, maintenant au service national universel, qu'il y a le bénévolat et que ça, c'est pas encore complètement autorisé dans le privé lucratif.
Violence symbolique, je n'ai pas les mots. Je n'ai que les armes, j'ai beaucoup d'insultes. Crois pas que je suis un culte, je te tire dans le dos. Je revends ton âme au premier coin de rue. J'ai connu le pire, j'invente le meilleur. Sorti de ma tête, tout droit vers la gloire. Qui cherche à me nuire, connaîtra l'aigreur. Je connais pas la fête, je connais la victoire. J'ai lu plein de livres, tourné plein de pages. Pourtant incapable de tourner la mienne. Riche en théorie, j'ai cassé la cage. Rien n'est incassable pour toucher les rêves. Je suis dans la faune, Vectrica Q. Le problème c'est vous, je vous ai semé. Je n'ai pas de trône, je peux pas être assis. Mon corps est debout, mon poing est levé. Évitant la merde, le shit les mégots. Préparant la guerre, sans aucune égo. Apporte la carrière, apporte les rivaux. Apporte le salaire, j'apporte le niveau. Niveau, le niveau, le niveau, le niveau. Le niveau, le niveau, le niveau, le niveau. Niveau, le niveau, le niveau, le niveau. Le niveau, le niveau, le niveau, le niveau. Niveau, le niveau, le niveau, le niveau. Le niveau, le niveau, le niveau, le niveau. Niveau, le niveau, le niveau, le niveau. Le niveau, le niveau, le niveau, le niveau. J'agrippe Pôle emploi et je suis pas tendu. Je gratte pas l'état, je récupère mon dû. Laisse tomber les rois sur le jeu d'échecs. La reine n'est pas là, je crois qu'elle défecte. La vérité meurt, souvent elle sonne faux. Souvent les meilleurs, ils sont pas Jon Snow. J'ai coincé mon pied, la porte ne ferme pas. On va tous rentrer comme dans une garba. J'ai fermé les yeux, la main sur visage. Sauf que j'ai triché, j'ai écarté les doigts. J'ai vu leur manège, le sujet qui passe. Les gens d'Élysée, esquivaient les lois. Je suis pas le parrain, j'ai rien à t'apprendre. Dans ce jeu malsain, y'a plus rien à vendre. L'espoir à la main, j'ai à quoi m'attendre. Rêve panafricain pour mettre à l'amende. Alors ça dit quoi? Ici de surpoids, conscience de surpoids, trop de seum sur toi. Apporte la carrière, apporte les rivaux, apporte le salaire, j'apporte le niveau. Niveau, le 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 niveau. Niveau, le 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 niveau. Niveau, le 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 niveau. Niveau, le niveau, le niveau, le niveau, le niveau.
L'idée, c'était d'avoir un peu des échanges autour de cette question des métiers passion, de est-ce que ça fait des liens avec des situations de travail, notamment toujours autour de cette question un peu collective, quoi, de en fait comment, enfin moi j'ai l'impression que le truc qui a l'air d'être commun, c'est comment on te dit mais c'est toi individuellement qui choisis, comme si c'était nous nos individualités qui faisions des choix de, je sais pas, de faire des métiers qu'on aime et que du coup on était là que par volonté. Enfin, comment on remet du collectif au sein de ce rapport au métier passion. Et moi, je pense que ça, peut-être on peut ouvrir là-dessus.
En gros, nous, ça nous a vachement intéressé parce que, enfin, là, de toute façon, dans tout ce que tu racontes, je sais pas, tous les bergers, d'ailleurs, autres travaux qui sont passion, on se reconnaît dans énormément de choses par rapport à l'investissement. Enfin, en fait, on peut faire un texte à trous et remplacer les termes pastoraux par les termes associatifs. Et en fait, on se retrouve exactement dans des choses qui sont similaires, en fait, dans le rapport d'exploitation, dans le côté la famille, le machin, l'invisibilisation, bref. Juste pour dire, nous, en fait, ces questions-là qui sont posées, c'est grosso modo la liste des questions qu'en fait, qui nous ont poussé à constituer un syndicat. C'est la première des choses qui nous ont poussé à constituer un syndicat ou en tout cas un espace d'organisation collectif pour justement casser ces rapports-là. Il fallait se réapproprier collectivement entre travailleurs la question de la passion et réinvestir notre propre passion, mais à travers nos yeux. Pourquoi ça nous passionne et pourquoi nous, on veut faire ça et que ce n'est pas la même chose que ceux qui nous emploient. Et en fait, toutes les questions-là qui sont nommées et qui sont posées, en fait, c'est juste pour le dire, c'est en gros, c'est les questions qui ont constitué le fait de vouloir, s'organiser collectivement pour défaire ces rapports-là, enfin, ces idées-là, en fait.
Oui, juste pour compléter brièvement, cette confusion dont parlait Elisa, ce côté même bateau, grande famille, blabla. Nous on a voulu lutter contre ça en déjà sortant de l'isolement, en se retrouvant, en parlant de nos conditions de travail ensemble, mais aussi on essaye de visibiliser le fait qu'on est d'abord des salariés. Et ça, aujourd'hui dans les médias, pour ce qui concerne les gardiennes et les gardiens de troupeaux, c'est très très flou pour beaucoup de personnes, parce que la plupart du temps quand on parle des gardiennes et des gardiens de troupeaux, on montre un éleveur berger, on montre un éleveur qui vient voir ses animaux. Et en fait, la plupart des gens, quand ils nous croisent à la montagne, ils ne savent même pas qu'on est salariés. Ils nous demandent si c'est nos animaux, si ça fait du fromage, etc. Si on fait du fromage. Et voilà. Et donc, ça paraît peut-être un peu basique, mais en fait, juste rappeler qu'on est des travailleurs et des travailleuses, déjà, avant tout, c'est déjà hyper important. Déjà, en avoir conscience soi-même, parce qu'en fait, le truc, c'est que nous-mêmes, on intériorise cette image de l'agriculture, la paysannerie, etc. Donc déjà, en avoir conscience nous-mêmes, et c'est une première étape pour aussi aller vers les autres et créer ce lien, quoi. Et donc, médiatiser le fait qu'on n'a pas une identité, on n'est pas non plus... voilà, notre situation de travailleurs et de travailleuses, c'est déjà hyper important.
Par exemple, là, typiquement, avec les dernières luttes agricoles qui ont eu lieu, en fait, le fait qu'on ne soit pas encore assez visible et assez grand en termes comme collectif de salariés et de travailleurs de l'agriculture, en fait, aujourd'hui, l'image généralisée des gens qui sont en dehors de ce truc-là, c'est les paysans sont des prolos exploités. En fait, d'après l'image, c'est ça qui est, alors qu'en réalité, il y a des gens qui travaillent pour eux. On invisibilise le fait que dans la ruralité, c'est comme ailleurs et c'est pas genre un métier parce qu'il a du sens qui serait différent des autres métiers qu'on est tous tenus par les rapports capitalistes du travail, tout machin. Et que du coup, en fait, la ruralité ou la campagne, l'agriculture, c'est comme partout. Il y a une bourgeoisie, il y a une petite bourgeoisie, il y a un prolétariat. Et en fait, il faut réussir à le renommer, quoi.
Donc moi, je voulais réagir à la notion que dans les associations, vous ne savez pas contre qui lutter parce que le patron n'est pas très clair. Et j'ai l'impression que dans l'historique des syndicats ou de la lutte des bergers, il y a eu du coup une lutte soit contre les éleveurs ou soit vers les conventions collectives. Ça a été beaucoup orienté vers les conventions collectives. Mais aujourd'hui, les éleveurs reçoivent le message en disant « Oh, les bergers sont contre nous ». Voilà, c'est globalement, moi, le message que j'entends au niveau des éleveurs. Après, la lutte commune que j'ai vue, ça a été la demande d'augmenter le plafond pour les aides, le plafond du salaire subventionné pour les aides au gardiennage. Donc ça, à la fois en tout cas en PACA, à la fois la FNSEA était pour, parce qu'actuellement, de toute façon, en fait, ils nous payent plus cher que le plafond, donc ça les intéresse d'être subventionnés au-delà. Et les bergers étaient pour, parce que ça nous permettra d'avoir des salaires plus élevés, vu qu'ils seront en effet subventionnés. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, la cible, par rapport aux associations, nous, c'est très centralisé. On dépend tous de la PAC, qu'on soit berger ou éleveur, c'est la PAC. Et le plan loup, plan ours, qui eux dépendent des FEADER, mais voilà, c'est très centralisé. Et tout est expliqué par la PAC, les aides à la surface, les MAEC, les investissements qui leur permettent d'acheter des tracteurs, des bergeries. Et après, ils disent qu'ils ne s'en sortent pas, mais c'est juste colossaux, des fois, les investissements, alors qu'ils n'ont que 300 brebis, qui ne font pas de lait. Du coup, voilà, moi, je trouve que ça serait intéressant de continuer à vraiment cibler le système de subvention plutôt que d'être dans une opposition avec les éleveurs. En tout cas, c'est ce qu'ils ressentent. Et notamment, par exemple, donc, ils vont trouver qu'on demande toujours trop d'argent, que ce n'est pas justifié. Mais par contre, si on cible sur la durée de rémunération, parce que là, actuellement, ils peuvent nous rémunérer que 4 mois. Il y a une date de... Enfin, ils doivent déclarer au moment du plan loup, du plan ours, quand est-ce que les troupeaux vont monter, quand est-ce qu'ils vont descendre. Et de toute façon, ils n'ont pas le droit à 12 mois de l'année. Après, ça dépend des secteurs. C'est assez compliqué. Ça dépend s'ils demandent des filets ou des postes électriques ou s'ils demandent juste du gardiennage. Mais si on arrive à militer pour qu'ils soient subventionnés, par exemple, sur une estive de 4 mois, qu'en fait, ils soient subventionnés pour 6 mois de salaire, ça arrangera tout le monde.
Alors ça, c'est évidemment des questions qu'on entend de manière assez fréquente, et notamment l'idée selon laquelle on serait contre les éleveurs, ce qui évidemment c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. C'est que, en fait, je pense que ça soulève ce que j'appellerais un malentendu général, en fait. Enfin, malentendu. Je pense qu'il y a des pratiques de lutte qui se sont évanouies, enfin pas évanouies, mais qui se sont dissipées, on va dire. Et qu'aujourd'hui, le rapport de force, il terrifie une bonne partie des gens, et en fait, surtout des gens qui en profitent, en fait, qui profitent du déséquilibre en étant du bon côté de la balance. Et que donc aujourd'hui, on nous reproche beaucoup, mais je pense que ça c'est vrai pour tous les militantismes, une certaine agressivité, une espèce de ciblage de personnes identifiées. En fait, c'est des combats qui sont d'abord pensés de manière structurelle. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on se positionne. Donc pour moi, ça n'a pas de sens, par exemple, d'aller sur le terrain des subventions. En fait, c'est le système qui fait qu'aujourd'hui, pour vivre, il faut des subventions, etc., est un problème. Ça s'appelle le capitalisme. Ça, c'est notre problème, à nous. Aller demander des subventions pour que mon employeur... Enfin, tu vois, en fait, ça, c'est un militantisme. Si eux veulent militer pour ça, ils peuvent le faire. Mais en fait, c'est pas notre combat, à nous. Alors nous, on n'est pas contre les éleveurs. On est pour des conditions de travail dignes, pour que nos heures de travail soient rémunérées. Et du coup, je suis vraiment... Enfin, on a de l'empathie hein, pour nos employeurs. Enfin, faut pas croire... Souvent, les gens s'imaginent qu'on sort, enfin, qu'on échange avec nos employeurs avec le couteau entre les dents. Enfin, la plupart du temps, enfin, je veux dire, moi, mon patron, il a déjà bouffé à la maison. C'est pas... Et je l'ai même pas empoisonné. Donc... Bon, j'ai brûlé le truc, mais ça, c'est un peu la tradition chez moi. Donc, enfin, bref, nous, on pense que c'est super important de repenser le rapport de force, de pas être pudique dans le fait de nommer les choses, comme le disait Benoît tout à l'heure. En fait, je constate que le manque d'empathie, il est très, très souvent adressé, reproché aux personnes qui sont justement pas en position de force. C'est que, en fait, c'est typiquement un levier de dominant, de dire « Oh, mais t'es méchant, tu penses pas à moi hein. !» Oui, bah, en fait, tout le monde pense à toi. Si toi, tu penses que ta manière de penser, c'est la norme, c'est justement parce que tu es en position de force. Et donc, porter une parole plus minoritaire, c'est forcément s'exposer à des personnes hérissées, à de la violence, et de la violence, y compris dans des personnes qui te reprochent d'être violent, parce que ça, au quotidien, c'est pas un truc qui est agréable à vivre non plus, quoi. Et donc, il faut qu'on se réapproprie notre vocabulaire et ce rapport à la à une certaine forme de violence symbolique ou voilà. pour pouvoir se défendre, en fait, s'excuser en permanence et euphémiser, toujours diminuer l'intensité des termes qu'on choisit, c'est déjà un aveu de faiblesse. Et en fait, on n'arrivera jamais, je pense, à faire reconnaître la légitimité de ce qu'on cherche à défendre si on s'excuse en permanence de le demander, quoi.
Oui, Pascal, pour l'ULCGT, j'ai deux points d'ordre. Le premier, merci pour ce bref exposé, rappeler d'abord des principes fondamentaux. La loi de 1901, elle vient consacrer, avec la loi de 1905, trois siècles de lutte interreligieuse, mais aussi de lutte contre les dominations, avec les luttes frugimentaires qui ont fait en sorte que le peuple luttait pour essayer de manger. Et quand je dis essayer de manger, c'était pour pas manger du pain à l'avoine et des restes de viande qui étaient putréfiés. Voilà. Donc il y a ça, et ça me paraît important de resituer, et dans ce contexte-là, il y a la CGT qui se crée en 1895, si mes souvenirs sont exacts. À partir de là, on a des éléments de contexte aujourd'hui qui signifient effectivement qu'il y a un recul des fondamentaux et qu'il y a une individualisation du contrat de travail qui n'est plus un contrat collectif, puisqu'on est bien dans un rapport, comme tu l'as souligné, de subordination, qui fait que on est aux prises directes avec l'exploiteur et l'employeur. Ce qu'on essaye de remettre sur la table, c'est le contrat collectif qui a été souligné précédemment, c'est-à-dire une volonté d'avec un cahier revendicatif et des luttes collectives d'avancer pour qu'on puisse être reconnu et reprendre surtout, au-delà de la reconnaissance, la main sur le travail. C'est ça qu'il nous faut, c'est reprendre la main sur le travail. Et la main sur le travail, ça, effectivement, ce n'est pas le contrat de subordination. Ça appelle à des éléments qui sont des éléments de conscientisation qu'on travaille dans les organisations syndicales et les organisations politiques pour dépasser ce stade de l'exploitation permanente. Tu soulignes que le milieu associatif est complètement, aujourd'hui, avec les appels à projets que j'ai bien connus, j'étais directeur du groupement pour l'alimentation et l'agriculture biologique des Hautes-Pyrénées, où on était tous syndiqués à la CGT, ça nous a aidé à passer le cap, mais ça n'a pas, effectivement, fait face à ces appels à projets qui faisaient qu'on s'auto-exploitait de plus en plus. Mais par contre, on avait une capacité d'échange avec l'employeur qui était celle que tu as soulignée, de la demande de respect permanent de la convention collective, et c'est la convention collective des CIVAM, et de faire en sorte qu'on puisse être en mesure d'avancer sur le contrat collectif. Là où il y a un problème, effectivement, et je rejoins ton analyse, c'est que on peut pas être sur la question des subventions. La ferme France, c'est 190 milliards aujourd'hui et 45 milliards de résultats nets pour l'agroalimentaire. C'est ça qui nous met en danger aujourd'hui. C'est que l'argent du capital, il a détruit complètement le travail et continue à le détruire, y compris pour vous, les bergers qui travaillaient pour des éleveurs et en conséquence des éleveurs qui sont sur l'IPHN et toutes ces primes là qui ont été créées artificiellement pour maintenir une activité qui va être détruite demain avec les contrats de libre-échange, notamment avec la Nouvelle-Zélande. Donc effectivement, il faut qu'on aille sur le capital, et le capital, c'est le résultat net des entreprises du CAC 40.
Je veux revenir sur aussi le fait des conditions de travail. Je pense qu'il y a une condition de travail de base, c'est d'avoir un logement correct. Et quand même, comme tous on sait, on doit vivre aussi avec le tourisme, rien de mal avec ça. mais question logement pour les gens qui travaillent en saisonnier ou qui font beaucoup de déplacements et qui veulent avoir une base correcte, c'est quand même très dur de trouver quelque chose et ça fait encore plus mal au cœur quand on entend sur la radio locale des actions du gouvernement aussi pour en fait promouvoir les maisons en location saisonnière. Et si on entend chaque hiver ou certaines périodes de l'été aussi, comme les personnes qui travaillent en saison ont du mal à se loger, qui n'ont plus de place non plus pour mettre les vannes. Donc en fait, que la question du logement, qui est pour moi aussi la base comme pouvoir manger tranquillement, n'est pas tout le temps respectée aussi. Et les associations pourraient, je pense aussi, mettre un peu de pression sur le fait qu'on doit peut-être aussi organiser ou voir comment on peut balancer, c'est plutôt ça, équilibrer la question de si on veut aussi avoir des gens qui restent au travail, qu'il y a de la continuité, parce qu'une lutte c'est ça aussi, c'est avoir une continuité, il faut aussi avoir les gens sur place dans des conditions qui sont convenables.
Je reviens à l'histoire du métier passion. Moi j'ai bossé dans l'associatif et maintenant je suis dans l'agricole qui m'a amené ici, moi je vis ma meilleure vie. Donc je suis du bon côté de la balance parce que je ne vais jamais me plaindre, parce que ici j'ai trouvé un équilibre, j'ai trouvé un métier qui me plaît, j'ai rencontré des personnes intéressantes et ouvertes et riches, pas tous, c'est sûr, du côté des éleveurs ou des bergers, des vachers, des gardiens de troupeaux, etc. Enfin voilà. Mais voilà, moi j'ai trouvé mon équilibre et j'ai l'impression aussi, dans ceux que j'ai rencontrés, que c'est cette quête d'équilibre aussi qui est importante et qui fait aussi ses valeurs dans l'associatif, qui fait qu'on on s'y met à 200% quand on y est. Et on ne peut pas faire autrement. Et ouais, on ne nous a rien demandé. Enfin, si, quand même, des fois. Il y en a qui demandent beaucoup et que c'est difficile aussi de refuser. Moi, souvent, aux touristes, je leur dis « Bah ouais, mais là-bas, je ne vais pas lui dire « T'arrêtes de vêler, il est 5 heures et j'ai mon café qui m'attend. » J'admire justement cet engagement profond qui demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de dévotion. En plus de tout ce que tu donnes déjà à côté dans la vie de tous les jours, dans le métier que tu as choisi, si possible. Parce que voilà, dans le métier passion, il y a ça aussi, il y a cette histoire de choix. Moi, je me souviens d'une discussion avec un berger qui n'en avait rien à foutre de dormir dans sa tente. Ok, je suis d'accord avec toi. Sauf que 4-5 mois dans une tente, tu dors mal, donc ton boulot il est plus difficile, donc il est moins bien fait, donc tu communiques moins bien, donc les éleveurs ils viennent te foutre la merde. Enfin, voilà, donc ça aussi, ça joue sur, entre nous aussi, comme tu dis, arriver à communiquer, à dire c'est quoi aussi des conditions basique déjà. Après, pour le reste, je vous laisse à ceux qui connaissent bien les textes et qui connaissent bien l'histoire et qui savent où il faut taper. Mais déjà ça, comme tu dis, la médiatisation, la communication, d'être là déjà aujourd'hui, merci à tous, quoi.
Il y a un truc qu'on peut spécifier aussi quand même, c'est que quand on est berger, enfin, il n'y a pas beaucoup de vieux bergers quand même. Et ceux qu'on connaît, on n'a pas trop envie de leur ressembler, quoi. Et tu vois ? Voilà. Non, mais il y a un truc aussi, c'est que, la passion, c'est une chose, mais en fait, c'est un métier où il y a un turnover incroyable, parce qu'en fait, la passion, c'est dans le contexte, on va dire, idéologique de la société actuelle, la passion, c'est un bien consommable, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de bergers qui viennent. Souvent, c'est un métier que les gens viennent faire en deuxième métier. Ils ont appris quelque chose avant, et en fait, des fois, il y a un déclassement volontaire, ou des fois, il y a vraiment un virage à 360 pour faire ce métier, alors qu'on a fait complètement autre chose. Mais aussi, c'est des gens qui trouvent, dans la grande majorité, trouvent une porte de sortie très rapidement, parce que la passion, au bout d'un moment, bah oui, c'est passionnant, mais c'est chiant. Donc, en fait, au bout de 5 ans, soit tu deviens éleveur, t'essaies d'accumuler ton petit capital et d'exploiter de nouvelles personnes passionnées. Non mais, soit tu rechanges complètement de truc et que du coup, en fait, ce rapport à la passion, il fait aussi que ce métier n'est pas un métier et il fait aussi que du coup, on ne peut pas créer du commun parce que les gens y rentrent et y sortent. Et que du coup, en fait, on ne peut pas défendre nos conditions d'existence, en fait. Après, moi, je suis trop content que les gens soient trop contents. Moi, quand il y a des fois, je suis à la montagne, le soir, les brebis vont bien, un petit pastaga, franchement, je vis ma meilleure vie, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est quand même... faut questionner, en fait, ce rapport-là. Moi, j'aime bien. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis berger. Désolé, je dure un peu. Ça fait des années, quoi. Et en fait, moi, j'aime bien me dire que ce travail est un travail et qu'il y a plein de choses qui me plaisent pas et que je me raccroche à travailler par des biais qui vont être aussi la sociologie de ce boulot, des trucs, d'autres choses qui me permettent de pas me raccrocher à la passion. Parce que si je me raccroche qu'à la passion, en fait, la claque que je prends, soit quand je descends, soit quand je remonte, elle est très très dure, en fait.
La question, c'est toujours dans quel monde, tu vois, dans quel monde je vis pour trouver mon équilibre de cette manière-là. Est-ce que mon équilibre, il pourrait pas être meilleur dans un autre monde, etc. Donc, et du coup, tout le monde n'est absolument pas obligé d'être militant, évidemment, parce que ça demande effectivement de l'énergie et que certaines personnes sont plus formées ou plus fragiles ou plus, voilà. Donc, c'est pas une obligation, mais par contre, je crois vraiment que c'est un pis-aller, quoi, cet équilibre. Enfin, je pense qu'on peut être, on peut ne pas avoir envie de crever, mais que ça pourrait être mieux.
Et après, moi, je voulais juste dire un truc sur la question des subventions. Dans les mouvements de lutte des assos, quand on a lutté pour des augmentations de subventions, la question de l'usage qui est fait de ces subventions sur, la question, sur les salaires, quand on a fait là, les fameuses manifs pour demander que le plan projet éducatif de territoire soit mieux payé, bah, derrière, une fois que ça a été mieux payé, que la subvention a été augmentée, on n'a juste plus du tout été capable de se remettre en lutte sur « Ok, on a gagné une subvention supplémentaire, et maintenant, comment elle est distribuée ?» Et parce que c'est, enfin, en fait, la question d'avoir plus de fric, c'est la question de qu'est-ce qui en est fait. Et notamment, par exemple, ça, c'est un truc qui, je trouve, se perçoit beaucoup dans les mouvements nationaux, l'équivalent du MEDEF des associations, qui est en gros les syndicats qui représentent le mouvement associatif. Ils demandent des augmentations de budget sans jamais parler de la question des salaires. Et du coup, ça fait en fait des augmentations des frais de fonctionnement ou des frais de siège des associations. Voilà.
Alors bonjour tout le monde, moi c'est Valérie. Alors je voulais intervenir en fait parce que moi je suis facilitatrice et médiatrice et j'ai travaillé dans de nombreuses associations, avec de nombreuses associations, notamment en Ariège. Et aujourd'hui quand j'écoute un petit peu le milieu agricole et éleveuse, enfin éleveur, c'est ça dont on parle aujourd'hui qui est au cœur de cette rencontre, en fait, quelle que soit l'activité, on finit toujours par rencontrer les mêmes problématiques, à savoir, là j'entends parler de lutte entre les travailleurs et les patrons, enfin voilà, d'associations. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai juste envie de dire que moi, mon job, c'est pas juste qu'on m'appelle quand il y a des conflits dans les assos, parce que ça, je l'ai vécu. Donc, en amont, moi, mon message, et je pense que c'est très bon pour aujourd'hui ce qui se passe d'une façon globale et du changement qui nous appelle tous, dans toutes les corporations et dans toutes les façons de faire, et quel que soit le contrat, c'est qu'en fait, tout le monde a des compétences, ok ? Et la compétence qui manque à l'heure actuelle dans une association, comme dans toute structure, de toute façon, dans toute structure, c'est la médiation et la facilitation. Pourquoi ? Ben parce que, par exemple, vous, voilà, vous êtes éleveur, vous êtes agricole, il y a les patrons d'un côté et les éleveurs de l'autre. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent dans les associations, par exemple, c'est un exemple, on va chercher notamment un très bon comptable, par exemple. Hein. Ça paraît évident à tout le monde, hein, on va chercher un très bon comptable. Sauf qu'on oublie que le côté humain qui a les compétences justement pour faire alliance entre tous et qui a vraiment qui a un poste dédié à ça. C'est-à-dire que les éleveurs, ils sont très compétents dans leur façon de, voilà, dans leur métier. Les patronats, ils ont à faire ce qu'ils ont à faire. Je ne dis pas qu'il y a des bons et des méchants. Je parle de juste ce que chacun doit faire. Et il y a aussi des gens qui sont là pour poser des temps et des outils afin qu'il y ait des mises en place, des mises en œuvre tous en commun, d'outils pour s'entendre tous, et pas uniquement en amont des conflits, en fait, en amont des conflits. Voilà. Et si un jour on prend peut-être l'habitude, autant qu'on va chercher un super comptable, parce que ça paraît normal dans une asso, par exemple, au début, hein, on ne va pas remettre ça en question, je pense que ce serait intéressant qu'on commence à réfléchir, à se dire, ah oui, il y a peut-être aussi quelque part une place évidente pour quelqu'un ou plusieurs personnes, voire, hein, qui serait dédiée à la communication et les outils pour du coup qui serait aussi un œil extérieur à tous ces métiers je pense que vous m'avez compris. Voilà.
Personnellement, je ne suis pas berger, je ne suis pas vaché. Je travaille dans le même cadre, de manière saisonnière, dans le même cadre au sens de la montagne, de manière saisonnière. Et je suis en plein dans ce qui nous est constamment renvoyé autour de l'idée qu'on aurait ce métier passion, cette joie de vivre et d'allier plaisir et travail, etc. Et je pense que ça posait une problématique assez nouvelle pour nous. Quand je dis nous, c'est qu'on, je participe aussi d'une structure syndicale qui s'organise à la fois au niveau national, mais aussi plus pratiquement à l'échelle du massif où je travaille. Et en fait, c'est une question qu'on s'est posée au dernier congrès, c'était comment nos employeurs, donc nous les agences de tourisme, peuvent utiliser cette image constamment dans leur publicité, effectivement, mais aussi, on s'était dit contre nous, ça, il n'y a pas eu trop de problèmes, parce qu'en fait, on a réussi très rapidement à obtenir de poser qu'on travaille tous au même salaire, même si effectivement, le problème, c'est qu'on n'est pas salarié, ils nous ont passé en auto-entrepreneur, etc. Mais on a réussi à obtenir des aménagements de logement pour nous, et on s'est mis d'accord sur un prix, en fait, auquel on vend notre force de travail, et on s'est retrouvé dans une autre situation un peu inédite, et c'est d'où ma question. c'est qu'en fait, et c'est encore accentué depuis le Covid, on se retrouve avec énormément de gens issus principalement des centres urbains qui cherchent à changer de décor, de mode de vie, etc., et qui se tournent vers le métier qu'on fait, et qui sont débarqués sur les saisons ces deux, trois dernières années, ça s'est accéléré après le Covid, mais la problématique, c'est qu'ils ont accepté de travailler à des tarifs beaucoup plus bas que ce que nous, on avait posé. Et du coup, ça nous a énormément posé question, parce que moi, c'est la première fois de ma vie où j'ai presque dû calmer des collègues qui voulaient en gros éclater ces gens, au sens de céder jaune, quoi. Bon. Et ce qui n'est pas totalement faux. Du coup, ça pose une problématique politique. Parce que moi, c'est ma question, c'était plutôt, est-ce que vous, vous êtes retrouvé dans une situation similaire avec, on va dire, une nouvelle faune de travailleurs qui arrive avec cette idéologie-là et qui accepte du tout de travailler à plus bas prix parce que, on va dire, que ça lui offre aussi un certain plaisir par rapport à d'autres métiers qu'il a pu faire dans sa vie. Et surtout, comment vous arrivez à aller voir les nouvelles personnes qui arrivent dans le métier et à poser un cadre syndical ou ne serait-ce que collectif avec eux. Nous, par exemple, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait à chaque saison, on essayait de recenser les nouveaux qui arrivent et d'aller les capter et leur dire comment ça fonctionne au niveau local, quel rapport on a posé au patron et pourquoi on aimerait qu'ils respectent au moins la consigne de ne pas se vendre en dessous du prix minimum que nous, on a demandé d'imposer. Voilà.
Par mon expérience, c'est moi, il m'a fallu quand même quelques années avant de commencer à avoir une pensée politique de mon travail. Et en fait, nous, justement, le fait de constituer une organisation collective et syndicale qui fasse que en fait, les gens peuvent compter les uns sur les autres pour aussi s'inscrire dans le temps, dans ce travail, dans ce boulot, que ce ne soit pas juste un truc où les gens partent et reviennent, c'est qu'on peut construire sur une longue durée une conscience politique, une conscience de classe. Et, voilà. Et après, on intervient beaucoup. Plus on grossit, plus on fait du commun, plus on va capter tous les gens, en fait. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, par exemple, en Ariège, c'est qu'en fait, on n'est pas connu. C'est-à-dire, soit les gens ils sont plutôt d'accord, soit les gens ils sont plutôt pas d'accord. Mais en fait, pour nous, ça, c'est une réussite. Parce qu'il y a au moins, il y a une ligne, en fait, qui se définit. Il y a des gens d'un côté et de l'autre. Au moins, on assume. Voilà. Et du coup, plus on grossit, plus de toute façon, on existe. Et donc, du coup, le discours, il est... En fait, il faut faire exister un discours, en fait, et on y arrive petit à petit. Il y a aussi la question de la formation, c'est que nous, en Ariège, on intervient dans la formation des patrons. Mais ça, c'est un peu plus complet. Enfin, on n'intervient pas en tant que syndicat, mais il n'y a que des syndiqués qui interviennent dans la formation des patrons, même si c'est des syndiqués qui sont aussi dans une association qui est l'association des patrons. Mais en général, c'est vraiment... On a un peu voulu ça aussi en tant que syndiqué. Enfin, c'est nous qui avons constitué un peu ce... on va dire les modules et tout ça, et parce que ça nous tenait à cœur, en fait.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.